RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel L'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie et la République tchèque renforcent la coopération dans le domaine de l'éducation. Améliorer les relations commerciales entre l'Indonésie et la République tchèque. Le vice-président Yusuf Kalla demande l'amélioration de l'industrie de la défense avec l'innovation technologique. Le ministre des Affaires étrangères a invité le monde à collaborer pour développer une économie créative. L'Indonésie et les Pays-Bas convenu la coopération dans le domaine de la santé et enfin, GMF et l'entreprise appartenant à l'État de la Chine ont construit une usine de pneus des avions l'année prochaine. Voici le journal complet. La jeunesse est la clé du développement. Par conséquent, la coopération dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation doit être améliorée. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Village, du Développement des Régions Défavorisées et de la Transmigration de la République d'Indonésie, Eko Putrosanjoyo, lors de son discours au 100e anniversaire de la fondation de l'ancienne Tchécoslovaquie à Jakarta récemment. Le ministre a déclaré que depuis 1995, l'Indonésie avait invité environ 190 étudiants de la République tchèque à étudier en Indonésie par diverses bourses.
Since 1995, Indonesia has invited approximately 190 Czech Republic students.
Depuis 1995, l'Indonésie a invité environ 190 étudiants de la République tchèque à apprendre l'indonésien par une bourse d'étudiants de Dharma Siswa et d'autres programmes de bourse d'études pour les aides culturelles. J'espère également voir plus d'étudiants indonésiens étudier à l'université en République tchèque. Je suis fier que les deux plus anciennes universités de la République tchèque proposent des programmes d'études indonésiens dans l'un de leurs départements. Le ministre Eko Putrosanjoyo a dit que la visite du président du Sénat de la République tchèque en septembre pour renforcer les relations et la coopération entre les deux pays. Le ministre de la Défense de la République tchèque, Lubomir Metnar, a dirigé la délégation de la République tchèque à la Indo Defense Expo and Forum 2018 à Jakarta. Le ministre du Village, du Développement des Régions Défavorisées et de la Transmigration de la République d'Indonésie, Eko Putrosanjoyo a déclaré que depuis l'établissement des relations diplomatiques entre l'Indonésie et la République tchèque en 1993, les deux pays coopéraient dans divers domaines, entre autres l'éducation, le tourisme et le commerce. La valeur commerciale des deux pays a augmenté de 5%, mais cela ne montre pas encore le potentiel réel des relations commerciales entre les deux pays. C'est pourquoi cette coopération doit être améliorée, comme l'a déclaré le ministre Eko Putro Sanjoyo lors de son discours au 100e anniversaire de la fondation de l'ancienne Tchécoslovaquie à Jakarta récemment.
In bilateral trade relation, we observe a steady rise of 5% each year.
Dans les relations commerciales bilatérales, nous observons une augmentation constante de 5% chaque année. En 2017, la valeur a atteint de 165 millions de dollars américains. Mais cela ne reflète pas le potentiel réel de nos relations. La visite de la délégation chargée des affaires, accompagnée de son excellente Milanster en septembre, est l'un des nombreux moyens d'accroître la valeur de nos échanges en unissant nos affaires et établissant souvent les contacts entre eux. Les hommes d'affaires de la République tchèque avaient investi dans les activités de microfinance en Indonésie depuis 5 ans. Le ministre Eko Putro Sanjoyo invite d'autres hommes d'affaires tchèques à investir également en Indonésie car il existe beaucoup de potentiel dans les zones rurales qui n'est pas encore exploré. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a ouvert Indo Defense Expo and Forum, qui est une exposition et un forum de principal outil de système d'armement de la production nationale à Jakarta mercredi. Les producteurs nationaux comprennent PT Pindad, qui produit le système d'armes principal pour l'armée de terre, PT PAL pour la marine et PT Dirgantara Indonesia pour l'armée de l'air. Le vice-président Yusuf Kalla a déclaré qu'Angpe avait besoin de sécurité et de défense pour protéger son pays et son peuple contre diverses menaces, tant internes que d'autres pays. Angpe doit avoir des forces armées et des armes. Pour cette raison, Yusuf Kalla, qui est également une figure de la paix dans le monde, a demandé que l'industrie de la défense nationale soit renforcée par des innovations technologiques et scientifiques.
L'industrie pertahanan adalah dibutuhkan untuk kemandirian. Kita mempunyai
l'industrie de la défense est nécessaire pour être indépendant. Nous avons eu l'expérience d'un embargo dans les années 90 en raison du problème de Timor. Il est difficile d'obtenir des équipements de défense ou alutsista à cause de l'embargo. Par conséquent, Angpe doit être prête à être indépendant de ses propres capacités, ses technologies, en plus de coopérer avec d'autres pays. Le vice-président Yusuf Kalla encourage la coopération entre les pays dans la production de l'industrie de la défense afin de maintenir la paix mutuelle et d'anticiper la menace du terrorisme et du radicalisme. À Indo Defense Expo and Forum, on organise également les expositions sur l'aérospatial et l'hélicoptère telles que Indo Aerospace avec Indo Helicopter 2018, l'Expo et le Forum, et l'exposition maritime Indo-Marine 2018, Expo et Forum. Le sixième vice-président indonésien, Tri Sutrisno, le ministre de la Défense, Ria Mizatriakudu, le commandant de la TNI, le maréchal Hadi Cahyanto, et des dizaines de délégués des pays amis, y compris la Malaisie, l'Australie, le Japon et l'Arabie Saoudite, étaient présents à l'exposition qui a duré 4 jours. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi Anusa Dua Bali, a invité mercredi les hommes d'affaires de l'économie créative de 45 pays qui assistent à la Conférence mondiale sur l'économie créative au CMCE. Anusa Dua Bali a collaboré au développement d'une économie créative. La ministre Retno a déclaré que le développement de l'économie créative devait appliquer le principe selon lequel personne n'est laissé pour compte. Elle a déclaré que l'économie créative ne doit pas être exclusive à ceux qui disposent d'installations qualifiées, mais doit offrir des opportunités à tous. Selon elle, avec les vastes développements technologiques de nos jours, l'économie créative au niveau mondial peut être véritablement inclusive et accessible à tous, partout dans le monde. Tous les pays, a ajouté Mme Retno, doivent continuer à combiner le pouvoir de la logique, la beauté de l'imagination et le miracle de la technologie, y compris la technologie numérique, dans une innovation. La ministre indonésienne de la Santé, Nila Farid Moulouk, et la ministre néerlandaise de la Santé, du Bien-être et des Sports, Sibylla Dekker, ont convenu d'une coopération dans le domaine de la santé afin de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. Seska deklare la ministre de la Santé de la Moulouk en mars de la 5e réunion du programme mondial de sécurité sanitaire à Nusa Dua Bali, mardi. Cette coopération a été convenue dans un mémorandum d'accord signé par les deux ministres. L'une des coopérations dans le secteur de la santé est la coopération dans le renforcement du système de santé, en particulier le service de santé des personnes âgées. La coopération dans la lutte contre les maladies infectieuses, y compris la résistance aux antimicrobiens, et la coopération dans le domaine de la sécurité sanitaire mondiale. À la fin de la discussion, les deux ministres ont convenu de réaliser immédiatement la coopération bilatérale entre l'Indonésie et les Pays-Bas sous la forme d'un plan d'action conjoint, si bien que leurs coopérations peuvent être faites sous la forme d'activités concrètes visant à améliorer le développement sanitaire dans les deux pays. Garuda Maintenance Facility Aero Asia, ou GMF, société anonyme, construira une usine de fabrication de pneumatiques pour les avions en établissant la coopération avec des investisseurs chinois, à savoir China Communication Construction Company, ou CCCC, et des fabricants de pneumatiques d'Europe et des États-Unis, qui sera commencé l'année prochaine. Lors d'une conférence de presse à Tangerang, le président-directeur de GMF, Iwan Juniarto, a déclaré que la signature avait été faite avec CCCC, qui donne le fonds de 500 millions de dollars américains lors d'une réunion du FMI à Bali il y a quelque temps. Iwan a expliqué que sa partie développerait la réchappage ou le revêtement de pneus avec la technologie adoptée de l'usine européenne ou américaine. Toutefois, il a ajouté que la coopération sera également développée pour la maintenance des moteurs et des composants d'aéronefs sans se limiter aux pneumatiques. Il a dit que l'année prochaine, le projet de construction d'avions pourrait commencer en Indonésie. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteur, après le journal, maintenant, comme d'habitude, je vous présente le commentaire et en pour le titre, la signification de la journée des euros aujourd'hui. Si nous disons que les euros sont identiques dans une lutte à la fois physique et non physique, en Indonésie, le jour des euros a été identifié avec les événements de la guerre pour défendre l'indépendance le 10 novembre 1945 par Are-Are Surabaya dans la ville de Surabaya à l'est de Java. Outre de déchirer le drapeau néerlandais dans un hôtel à Surabaya, la mort du chef des alliés britanniques, le brigadier général Malabi, a poussé les alliés à attaquer massivement de la ville de Surabaya, assisté par l'armée néerlandaise via NICA, à savoir l'armée néerlandaise qui est l'organisation semi-militaire formée le 3 avril 1944. Chargée de rétablir l'administration civile et la loi du gouvernement colonial des Antilles orientales néerlandaises après la capitulation du Japon à la Seconde Guerre mondiale. Mais la signification des héros n'est plus l'esprit qui lutte contre les envahisseurs, mais la manière dont le héros doit manifester lui-même pour oser se sacrifier pour une chose qu'il croit vraie, d'après le fait pour la nation et le pays ainsi que pour son peuple. Le ministère des Affaires sociales, lors de la commémoration de la journée des héros 2018, le 10 novembre, a donné le thème « L'esprit des héros sur ma poitrine », comme indiqué du mandat du ministre des Affaires sociales, la journée des héros a le sens, conformément à sa nature, dans chaque personne être inculqué des valeurs héroïques. Par conséquent, chaque citoyen indonésien, sans exception, peut prendre l'initiative de se consacrer à son propre bénéfice, à son environnement pour la nation et l'État. La signification de la journée des héros à l'époque actuelle peut aussi lutter contre quelque chose qui fait du bruit dans le public. L'exactitude, la compréhension et revoir le cœur de nouvelles que nous lisons Nous voyons et ce que ces nouvelles sont nécessaires ou non de propager est une action héroïque. Inviter à faire des bonnes actions pour abandonner des activités contraires à la loi est aussi un héros, comme la corruption, ne pas recevoir de gratification et ne pas pratiquer la corruption, nous pouvons également appeler des héros. La vérité est chaque lutte doit avoir des résultats, mais il n'y a pas de fin à la lutte. Chaque période de lutte continue dans la prochaine période de lutte en fonction de la situation et des conditions. Donc, se battre physiquement et non physiquement pour la bonté des gens sans avoir aucun profit ou perte, qui est-ce qui gagne ou perd, suivi de la justice et de l'honnêteté, c'est le vrai héros. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous. Voici la rubrique de l'histoire d'aujourd'hui, le 8 novembre. On commence par le 8 novembre 1939. Adolf Hitler a survécu à une tentative d'assassinat à Munich. Adolf Hitler était le chancelier allemand de 1933 et le Führer ou le chef allemand de 1934 à sa mort. Chaque mois de novembre, Adolf Hitler assistait toujours à une réunion qui avait lieu régulièrement à la Halle de Berre. Johann Georg Elser, un communiste allemand qui était charpentier, a réussi à entrer dans la salle pour poser une bombe. Elser s'opposait fermement à la tentative de Hitler d'unir les travailleurs au sein d'un parti, les nazis. Il a également refusé de donner les salutations nazies. Sa haine est devenue de plus en plus vive lorsque Hitler a lancé une attaque contre la Pologne en tant que début de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939. Finalement, il a décidé de tuer Hitler en posant une bombe sous l'un des piliers derrière le podium, lié du discours de Hitler dans la salle. Mais son plan échoué car Hitler a quitté la salle plus tôt que prévu. 8 minutes après le départ de Hitler, la bombe a explosé et tué 8 personnes, les 7 sont nazis, et a blessé 65 autres, y compris le père d'Eva Braun, partenaire de vie de Hitler. Elser a été arrêté alors qu'il franchissait les frontières d'Allemagne et de la Suisse à Constance. Après avoir avoué ses actes, Elser a ensuite été conduit au camp de concentration de Sachsenhausen, puis au Dachau. La suite, le 8 novembre 1949, la Journée mondiale de l'urbanisme a été fixée. L'Organisation internationale pour la Journée mondiale de l'urbanisme a été créée le 8 novembre 1949 par le regretté professeur Carlos María de la Paulera de l'Université de Buenos Aires. La date a ensuite été désignée comme la Journée mondiale de l'urbanisme ou communément appelée World Town Planning Day, qui est une forme de revitalisation de la planification spatiale mondiale. Jusqu'à présent, 30 pays ont commémoré la Journée mondiale de l'urbanisme. La célébration de la Journée de l'aménagement du territoire vise à sensibiliser davantage le public et les professionnels aux efforts de la planification de l'aménagement du territoire au niveau local et mondial. La dernière, le 8 novembre 2002, le Conseil de sécurité des Nations Unies a publié la résolution de 1441. La résolution de 1441 offrait aux dirigeants irakiens de Saddam Hussein la dernière occasion de satisfaire aux exigences en matière de désarmement énoncées dans plusieurs résolutions antérieures. le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1441 de 15 membres du Conseil. La Russie, la Chine, la France et des pays arabes tels que la Syrie appuyaient la résolution 1441. Ce soutien est plus large que le soutien à la résolution de la guerre du Golfe de 1990. Chers auditeurs, voilà la rubrique L'Histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir tout le monde, voici le programme de mon Indonésie. Aujourd'hui, on va parler de la ministre de l'Environnement et des Forêts a invité les habitants de Cianjur à sauver le bassin versant de Citarum. Siti Nurbaya, la ministre de l'Environnement et des Forêts, a invité les habitants de la région de Cianjur à planter 25 arbres au cours de la vie dans les activités de réhabilitation des forêts et des terres afin de soutenir les efforts de sauvegarde de bassins versants de Citarum. Elle a déclaré qu'actuellement, la superficie des terres critiques en Indonésie s'étend sur environ 14 millions d'hectares. Dans la province de Java de l'Ouest, la superficie des terres critiques dépasse 900 000 hectares ou environ 6,51%. Comme la déclaration de Siti Nurbaya, lors de la socialisation de plantation de 25 arbres au cours de la vie dans le cadre du contrôle des dommages du bassin versant de Citarum dans le village de Wangun Jaya au district de Cugenang à la région de Cianjur, aux provinces de Java de l'Ouest samedi 3 novembre. Siti Nurbaya a déclaré que la superficie des terres critiques provoquera des inondations, des glissements de terrain et des sécheresses. Pour cela, l'un des efforts pour réduire cet impact consiste à réhabiliter les forêts et les terres, principalement à planter d'arbres et à construire des bâtiments techniques d'érosion et de sédimentation. Le ministre de l'Environnement et des Forêts a déclaré que la région de Cianjur se situait dans le bassin versant de Citarum, précisément dans le sous-bassin versant de Cisokan, le sous-bassin versant de Cikundul et le sous-bassin versant de Cibalagung, où le débit de la rivière serait stocké dans le réservoir dont l'existence et la fonction doivent être maintenues. Siti Nurbaya a déclaré que le sauvetage du bassin versant de Citarum dans la région de Cianjur était très important pour la ville de Jakarta, car c'était une rivière qui contribuait beaucoup à la prévention des inondations et des glissements de terrain. En plantant 25 arbres au cours de la vie, nous pouvons construire des forêts dans la zone de résidence. En outre, afin de prévenir les dommages au bassin versant, la ministre Siti a également appelé toutes les parties à bien utiliser les ressources naturelles du bassin versant et à prendre en compte divers intérêts dans leur gestion. Le mouvement de planter 25 arbres au cours de la vie est basé sur l'instruction du ministre de l'Environnement et des Forêts. La communauté est obligée de planter et d'entretenir au moins 25 arbres au cours de leur vie pendant la période scolaire jusqu'à leur mariage. Siti Nurbaya a déclaré que cet effort de plantation pourrait réussir s'il était mené correctement sur la planification, la sélection des espèces, la pépinière, la période de plantation, l'entretien, jusqu'à la récolte appropriée. Le ministère de l'Environnement et des Forêts poursuit diverses actions visant à préserver le bassin versant de Citarum. En plus de la construction de 27 unités de barrages de confinement et de 95 unités de contrôleurs de ravins, Le ministère de l'Environnement et des Forêts dirige également la réhabilitation des forêts et des terres au district de Cianjur dans une forêt polyvalente de 10 hectares et à la zone forestière de près de 700 hectares. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a également divisé 15 250 semences productives pour la communauté. Chers auditeurs, c'est tout mon Indonésie d'aujourd'hui.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, on se retrouve avec moi Tiwi dans la rubrique du Magazine Culturel. Comme d'habitude, vous pouvez écouter notre émission par la diffusion en direct à www.voinews.id. Aujourd'hui, je vais vous présenter la danse de Bedaya Sang Amur Wabumi. Restez donc avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, du 5 au 12 novembre, le roi du palais de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, et son équipe artistique du palais de Yogyakarta visitent les États-Unis. La visite du sultan et de son entourage a rencontré l'invitation de l'université de Wesleyan, située à l'état de Connecticut, aux États-Unis, ainsi que de plusieurs autres institutions du pays de l'oncle Sam. Le 9 novembre 2018, à l'université de Wesleyan, l'équipe artistique du palais de Yogyakarta présentera trois danses sacrées, à savoir la danse de wayang topeng Klana Sewandana Gandrung, la danse de golek Menak Umar Maya Umar Madi, et la danse de Bedaya Sang Amur Wabumi créée par Sultan Hamengkubuwono X. Aujourd'hui, nous vous invitons à connaître l'une de ces trois danses, c'est la danse Bedaya Sang Amur Wabumi. Chers auditeurs, la danse de Bedaya Sang Amur Wabumi est un type de danse classique de style de Yogyakarta créée par Sultan Hamengkubuwono X. Cette danse est la légitimité du Sri Sultan Hamengkubuwono X à Swargi, où le défend Sri Sultan Hamengkubuwono IX. La danse Bedaya Sang Amur Wabumi a un concept philosophique, c'est être fidèle aux promesses, patient de caractère, fort, tolérant, faisant toujours du bien et social. Le concept de base de cette danse créée par Sri Sultan Hamengkubuwono X, tandis que la chorégraphie créée par Sasminta Dipura. Chers auditeurs, la danse de Bedaya Sang Amur Wabumi a été présentée pour la première fois au Bangsal Kencono lors de la nomination et de l'attribution du titre de héros national à Sri Sultan Hamengkubuwono IX en 1990. Elle a été dansée par 9 filles ou danseuses et a duré 2 heures et demie. Cette danse a été accompagnée par les rythmes dramatiques qui symbolisent la douceur, car chaque roi a toujours ses propres expressions et concepts dans chaque service au peuple. Les danseuses portaient des vêtements de kebaya noir et de tissus de jarik et de châles de sampoli jaune et de chignon. Chers auditeurs, dans son spectacle, la danse Bedayasang Amurwabumi se compose de scènes divisées en trois mouvements de danse principaux symbolisant le concept de Tri Tirtha. Cette danse a 10 mouvements initiaux, à savoir Nyembah, Jengkeng Ngembat, Ngelayang Nyembah, Jumeneng Panggel Mapan, Gruda Kiwa Mayuk Jinjit, Gruda Tengen Mayuk Jinjit, Ngenderek, Imbal, Lampah Sekar Kengser Mubeng Ngiwa, Ngancap Wangsul Malih Rakit Lajur, Egidra. Cette danse ne repose pas seulement sur les mouvements du corps, mais aussi sur l'esprit et les sentiments. Dans le passé, cette danse ne pouvait être pratiquée que par les gens du palais, car elle est très sacrée. Mais au fil du temps et aux efforts de préservation culturelle, tout le monde peut apprendre cette danse. Chers auditeurs, voilà l'édition du magazine culturel qui vous présente la danse de Bedayasang Amurwabumi. On se retrouvera encore dans la même rubrique avec des autres sujets intéressants. Au revoir!
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec l'Indonésie en couleur et pour titre, l'Indonésie se classe au premier rang des pays les plus généreux au monde. Récemment, le rapport de World Giving Index 2018 par Charities Aid Foundation CAF au Royaume-Uni a désigné l'Indonésie comme le pays le plus généreux au monde. Cette enquête et cette recherche ont été menées par la CAF ou Charities Aid Foundation, une organisation britannique à but non lucratif engagée dans la charité avec des données compilées par Gallup, une société de recherche américaine. Ils ont réalisé une enquête et des recherches qui ont abouti aux données intitulées CAF 2018 World Giving Index. Dans l'étude, trois choses ont été recherchées et sont devenues l'évaluation principale. L'initiative pour aider des étrangers, faire un don d'argent à une œuvre de charité et devenir des volontaires. Ces données ont été réalisées de 2013 à 2017 et ont été collectées en 2017, impliquant plus de 150 000 personnes de 146 pays. Le résultat, l'Indonésie occupait la première position, l'Australie arrive en deuxième position, la Nouvelle-Zélande troisième et les États-Unis quatrième. Sur les trois évalués, pas moins de 78% des Indonésiens ont souhaité donner de l'argent à d'autres personnes. En outre, dans l'évaluation du volontariat, la valeur a atteint 53%, suivi d'aider les étrangers 46%. La valeur totale de l'Indonésie est 59%. Thank you. Dans la région asiatique, trois pays occupent les 20 premières positions, à savoir l'Indonésie, Singapour et le Myanmar. Singapour occupe la 7e position avec un pourcentage global de 54%. Et le Myanmar au 9e rang avec le même pourcentage global. Toutefois, à plusieurs égards, Singapour et le Myanmar ont des chiffres différents. Sur un total de 20 pays, Haïti et Singapour sont d'abord devenus les pays les plus généreux du monde. Il y a 5 ans, Singapour occupait le poste de 64. Selon les recherches, l'intérêt porté à aider les étrangers est au centre des préoccupations. Si l'on trie les données sur les 5 dernières années, le Myanmar occupe la première position en tant que pays le plus généreux. Au cours d'une période de 5 ans, le Myanmar a un pourcentage de 90% dans l'évaluation du don en argent. Cependant, l'Indonésie occupe la 7e position dans les 5 dernières années. Chers auditeurs, c'est à l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les musiques indonésiennes. Merci à tous et à bientôt.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Chers amis de quatre coins du monde, bonsoir et comment allez-vous? Nous espérons que vous soyez en bonne santé. Vous écoutez notre programme musical de La Voix d'Indonésie. Dans cette édition, nous allons vous présenter une chanteuse connue indonésienne, Christine Natalina Panjaitan, ou plus connue avec le surnom Christine Panjaitan. Vous vous souvenez d'une chanson intitulée « Dites-moi honnêtement » Pour ceux d'entre vous qui se souviennent encore, bien sûr, vous reconnaissez encore la chanteuse qui l'a popularisée. Christine Panjaitan n'est pas un nom étranger dans l'industrie de la musique indonésienne. Son nom était populaire à travers une chanson intitulée « Dites-moi honnêtement » qui est chantée ou popularisée par les autres chanteurs jusqu'à présent. Bon, serviteurs, voici la chanson intitulée « Dites-moi honnêtement, chantez pas Christine Panjaitan. Bonne écoute.
Pernah ku rasakan artinya
Cerita setelah sangsung de Kristen Panjaitan ang titule di mua one temang. Ilia longtang ke song bo visas ne pa visible dans la télévision, si bien que les gens pensent que la retire dans l'industrie de la musique en Indonésie. Mais Kristen l'a refusé. Elle admet qu'elle chante encore activement dans divers programmes, soit off-air ou on-air. Aux années 1980, Kristen Panjaitan était devenue l'une des chanteuses pop mélancoliques plus célèbres en Indonésie. Bon, chers auditrices et chers auditeurs, voici la deuxième chanson de Kristen intitulée Je l'ai oublié. Bonne écoute.
Thank you.
Sakiru tak bune dekote la sang song Kristen Panjaitan ang titule Je l'ai odi. Sekzami, le dernier album de Kristen Panjaitan publi ang 1988 di wit ang titule Je t'aime. Bien que cet album était moins succès au marché, mais il paraît la présence de Christine était encore sentie par ses fans. Christine est en train d'attendre actuellement un producteur qui veut lui faire un album pour qu'elle puisse traiter le manque de ses fans. Bonsoir, amis, avant de terminer notre programme, voici donc les deux dernières chansons de Christine Panjaitan intitulées Pour Mama et Vous, Lui et Moi. Bonne écoute et à bientôt.
Sisiku seluruh
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325 kHz
par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.